14h.
Salut.
Bye. Bye. Keep on rolling, baby.
Boulevard 102, c'est Marceau le matin, le point de Max. On en jase le midi. Et Gravel dans le retour. Sans oublier les rendez-vous incontournables.
Keep on rolling, baby!
Le Pit Stop avec Denis Gravel, 7h55. L'Open Mic d'Audrey Pinchot, 11h. Caucus avec Antonin Iacarini à midi. Boulevard 102.1, maintenant 100% parlé en semaine.
102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Olivier Primeau est avec nous ce soir. Comment on peut le présenter? Je pense qu'on peut le présenter comme influenceur, comme homme d'affaires. Est-ce qu'on peut le présenter comme futur politicien? Bien ça, il saura nous le dire. Olivier Primeau, salut!
Bonsoir!
Merci d'être là ce soir puis d'accepter d'être avec nous. Je pense que tu es assez occupé là. Fait que c'est un privilège de te parler. Merci d'être là, soit dit en passant.
Je m'en viens dans votre belle ville là, pour 2 jours. Là, fait que...
Ouais, puis il y a des langues qui se délient autour de moi, puis on me parle de plus en plus d'un Olivier Primeau qui pourrait venir s'établir dans le secteur de Québec. Ça pourrait-tu être possible, ça, dans les prochaines années?
Ça fait longtemps là, que je regarde pour venir m'établir un petit pied à terre à Québec, parce que je suis souvent là pour la job, avec nos produits là, Beach Day. Énorme secteur, là, le Grand Québec. Là. Fait que, ouais, pourquoi pas. J'ai plein d'amis là-bas, puis... J'ai toujours aimé. En fait, j'ai toujours aimé Québec. J'adore Québec. Là. J'ai de la famille de là, puis je suis tout le temps là. Fait que pourquoi pas? Les rumeurs vont de bon train. Ça
ouais.
va bien.
Mais on est bien aussi à Montréal. Est-ce que toi, t'es un peu tanné de Montréal? Puis si oui, pour quelle raison?
Ben, j'ai jamais été. J'ai été Montréalais pendant 2 ans et demi.
Ouais.
Moi, j'habite à Laval, en fait. Là. Fait que. Non, je suis pas tanné de Montréal. C'est juste que Québec, je sais pas, tout le temps, il y a une petite place. Dans mon cœur. Puis, comme je te dis, là, j'ai de la famille puis vraiment beaucoup d'amis là-bas. Fait que non, c'est pas par préférence. C'est juste que j'aime bien avoir un pied à terre. Comme je suis là souvent, là, les chambres d'hôtel, je suis tanné un peu.
OK. Influenceur, homme d'affaires, peut-être futur politicien. Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question-là ce matin, fait que je vais te le reposer. Est-ce que c'est difficile maintenant, en 2026, d'être Olivier Primeau avec tes horaires, avec le fait que tu peux même pas aller à l'épicerie tout seul sans savoir que tu vas te faire achaler tout le temps?
C'est pas difficile parce que c'est moi qui ai choisi ça. Je vais t'avouer bien franchement là, que... V'là 10 ans, quand j'ai commencé à poster sur Snapchat et Facebook, je pensais pas que j'allais devenir aussi connu. Mais tu sais, ça a pris du temps. Là. Ça a pris 10 ans là, pour qu'on en arrive là. Tu sais, j'ai été longtemps super connu dans les médias sociaux. Ça c'est correct. Puis c'est moi qui courais après parce que, bon, ça venait avec ma job. Puis je le voulais aussi. Là. Je veux dire, ça serait mentir de dire que j'aime pas l'attention. C'est pas un défaut puis c'est pas une qualité. Là. Ça fait partie de moi-même. Fait que c'est-tu difficile? Non. Est-ce que c'est plus intense qu'avant? 100%. Surtout avec les réseaux sociaux qui prennent de plus en plus d'ampleur. Puis là, que c'est vraiment rendu. Tu sais, t'es dans les médias, ça fait longtemps, là. Le fameux là, média 360 qu'on parlait il y a 5 ans, là, puis c'est ça qu'on voulait, là. Le média traditionnel, la radio, la télé, les réseaux sociaux, etc. Ben là, on est en plein dedans. Là. Fait que moi, je fais partie de cette grosse tournade-là, comme plusieurs autres. Mais ouais, c'est sûr que c'est impossible que je sorte de chez nous sans que personne vienne me voir. Fait que ça, c'est un challenge, mais t'apprends à vivre avec. Puis si t'es une personne qui aime le public comme moi j'aime le public, ça, sincèrement, ça se fait bien.
Ouais, parce que je parlais
compliqué d'aller en date, par exemple. Compliqué d'aller en date.
Je parlais avec un ancien joueur du Canadien de Montréal qui est encore très jeune, mais qui est à la retraite aujourd'hui. Puis, tu sais, il mentionnait qu'encore à ce jour, tu sais, il a adoré jouer pour le Canadien. Puis, tu sais, il est multimillionnaire aujourd'hui. Puis, il aurait plus besoin de travailler, même s'il continue de travailler quand même. Mais des fois, il trouve ça lourd. Toi, tu parles des dates, mais juste d'aller dans un restaurant avec des amis que tu n'as pas vus depuis longtemps, puis de devoir partager ces moments-là avec les gens qui étaient des fans du Canadien, tu sais, qui viennent le voir à la table. Des fois, tellement qu'il me racontait qu'il se cachait, tu sais, il se mettait dos à la porte d'entrée pour être sûr et certain que personne ne le reconnaisse parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus tant de qualité avec ses amis ou sa conjointe.
Oui, ben là, ça c'est un fait là, 100% véridique. Là. Puis, tu sais, l'autre truc aussi, c'est que comme je suis dans la restauration, dans l'événementiel, tout ça, tout le monde, que tu m'aimes ou tu m'aimes pas, que tu me suives ou tu me suives pas, quand j'arrive dans ton restaurant, 9 personnes sur 10 qui travaillent dans le restaurant me connaissent. Fait que, bon, là, déjà, j'ai l'attention de tous les clients. Là, en plus de ça, le staff vient me saluer. Mais c'est vrai, mais tu sais, mes amis de longue date sont rendus habitués. Puis, tu sais, moi, quelqu'un vient me demander une photo en plein milieu du repas. Je la prends, ça me fait plaisir, je sors la main. Puis, on est privilégié de se faire encourager de même. Il y en a qui aiment moins ça. Mais pour moi, sincèrement, c'est pas vraiment un problème. Tu sais, tantôt, je niaisais avec les dates, là. Mais c'est sûr qu'un souper d'amis, des fois, c'est compliqué, là. Fait que, ben, c'est compliqué. Oui, des fois, c'est compliqué parce que c'est 7, 8, 10 personnes qui viennent te voir, là, en 1 heure, 1 heure et demie. Fait que,
Des
mais
fois,
c'est surtout
faut que tu
ça.
gardes le fil de la conversation aussi, là, avec, quand tu te fais tout le temps
Ouais.
couper, ça doit être particulier. OK.
Ouais.
Est-ce que tu as de la misère à faire la sélection des gens qui sont avec toi pour les bonnes raisons versus les gens qui t'approchent, puis c'est peut-être pas tout le temps pour les bonnes raisons?
C'est drôle que tu me demandes ça parce que j'avais cette discussion-là hier avec ma mère qui me disait, elle disait, Olivier, elle disait, tu sais, on parlait d'un sujet là, justement qui se rapportait à ça, puis elle me dit, t'es chanceux, elle dit, t'es entouré de bonnes personnes, tous tes amis d'enfance sont encore là, puis tout mon, j'appelle ça mon deuxième cercle d'amis. Quand on a acheté le Beach Club de la famille, je me suis fait un autre cercle d'amis ici, ça arrive nord, puis un peu partout au Québec. Les premières années, sincèrement, c'était compliqué. Pas avec mes anciens amis, parce que, tu sais, je veux dire, eux, ils sont là depuis que j'ai 2 ans. C'était compliqué à savoir, pas pour les bonnes ou les mauvaises raisons. C'était compliqué à savoir pourquoi. Fait que, tu sais, moi, j'ai des amis que j'appelle des amis de restaurant. Fait que ça, c'est du monde que je croise dans mes événements, puis que je vais au resto avec, puis que je suis ami avec de soirée, puis de restauration, puis tout le monde est super satisfait avec ça, dont moi, puis je suis bien content, mais tu sais, je les appelle pas à 3 h du matin si mon vol n'a pas décollé, puis il faut qu'ils viennent me chercher, là. Fait que c'est ça. C'est pas à savoir s'ils sont là pour les bonnes ou mauvaises raisons, c'est à savoir s'ils sont là pour quelles raisons. Après ça, c'est toi qui choisis si t'as une bonne ou mauvaise raison, là. Fait que, tu sais, je l'entends souvent, celle-là, dans les dernières années, mais non, je sais qu'il y a des gens qui sont là parce que je suis capable de leur apporter quelque chose. Puis si je suis à l'aise avec ça, ben pourquoi pas.
Okay, puis, tiens, je te pose une autre question comme ça, out there. Crime organisé, as-tu déjà tenté de t'approcher?
Non, du tout, du tout. Tu sais, je suis tellement une personnalité publique, puis tous nos événements sont tellement surveillés, puis c'est tellement publicisé. Puis maintenant, avec les téléphones, puis tout, c'est plus pas tout pareil. Fait que, tu sais, au Beach Club, là, il y a tellement de policiers, puis tout ça. Fait que, non, non, jamais, même pas par quelqu'un interposé. Non, jamais.
Est-ce que Olivier Primeau, quand il est seul, il pense vraiment à la politique et est-ce qu'il pense vraiment devenir un jour premier ministre du Québec en suivant les étapes? Parce que je vais te l'avouer, là, dans les médias, ça a été un choc, là, quand on a vu que tu aurais peut-être l'intention de te présenter. Je faisais partie de ceux qui ont dit ben, il pourrait hijacker le parti sans aucun problème, il va vendre des cartes de membres sans aucun problème, puis il pourrait devenir premier ministre du Québec s'il n'y a pas des mesures qui sont en place pour choisir les candidats de la Coalition Avenir Québec. T'y as-tu vraiment pensé?
J'ai pensé certainement parce que c'était un grand. Comment je pourrais dire ça? C'était tellement flatteur que mon nom soit dans cette courte liste-là au plus haut siège de l'État, là. Peu importe, là, t'sais, sans dénigrer absolument rien de député ou de. Mais là, t'es dans la grosse chaise, là. Fait que t'as toute la pression du Québec, dont 70% des gens qui n'auront pas voté pour toi. Puis dans mon cas, il y aurait juste eu les membres de la CAQ. Fait que j'ai pensé, oui, mais j'ai pas pensé d'y aller. Je veux dire, j'ai pensé de. Ma vie serait quoi? Est-ce que j'aurais été capable? Je suis certain que oui, parce que je m'entoure tellement bien, c'est une de mes plus grandes qualités. Puis en politique, si tu t'entoures bien, ben déjà là, t'es un pas d'avance sur les autres. C'est pas un one-man show. Est-ce que je vais en faire un jour? Écoute, j'aimerais tellement ça. C'est drôle parce que j'avais. C'est pas encore diffusé, là, mais
Christine
j'avais Bernard
Fréchette.
Drinville.
T'avais Christine
Ben,
Fréchette aussi.
Christine Fréchette, puis Bernard Drinville.
Ouais.
Puis Bernard, c'est ça qu'il me disait, M. Drinville, il me disait. Il dit, si tu dis que tu veux faire de la politique et que tu n'en fais pas, ça va être le plus grand regret que tu auras jamais eu. Fait que j'étais bon, M. Drinville. Vous me mettez de la pression à ma tête. Fait que
Mais est-ce que tu avais
je sais.
rencontré les gens de la Coalition Avenir Québec pour savoir, bon, quoi faire pour être candidat? Qu'est-ce que ça prend?
En fait, je suis allé rencontrer Brigitte Legault, là, qui est la
directrice générale. Présidente.
Oui, exactement. Excuse-moi, la directrice générale. Parce que, bon, là, c'était tellement rendu gros. Puis Brigitte, on est des bonnes connaissances depuis quelques années parce que, bon, j'ai plein d'amis dans le secteur politique, là, pas juste à la CAQ, là, partout, là, parce que je m'intéresse à la politique. Puis on s'était dit, regarde, je vais venir te rencontrer, explique-moi comment ça fonctionne. Fait que, c'était super intéressant. Puis, tu sais, tout entendre comment ça fonctionne, le vrai fonctionnement, là. C'est pas juste arriver là pour vendre des cartes, là. Tu sais, après, il faut que tu ailles le caucus de ton côté, parce que là, de bord, il y a des députés qui disent, ben non, nous, on veut pas primo, fait qu'on s'enlève. Le parti implose, le gouvernement, tu sais, je veux dire, il y a tellement de choses, là. C'est bien beau vendre des cartes, là. Puis la fonction, je l'ai répété souvent, là, j'ai tellement de respect pour cette fonction-là. Je suis le premier à les critiquer, mais je suis aussi la première personne à dire que c'est un fardeau gigantesque. Peut-être un jour. Je le répète encore, je suis certain que je serai très bon. Par contre, il faut que tu aies une bonne équipe. Puis là, en ce moment, ben, j'en avais pas vraiment. T'sais, moi, j'arrivais out of nowhere, puis il fallait que je vende des cartes.
Donc, tu préférerais commencer dans le bas de la pyramide pour la grimper peu à peu?
Ben, sans dire le bas de la pyramide, parce que entre toi et moi et tout le monde qui nous écoute, je sais que je ne serai jamais un député là, inconnu ou peu importe, moins connu, puis qui ne sera pas mis de l'avant-scène. Je sais qu'avec mon statut social de personne publique connue, je vais me faire demander, si je me fais demander par des partis, c'est d'être au-devant du parti. Là. Je ne suis pas avec non plus. Là.
Ça dépend de quel leader tu pognes. Si tu pognes un leader positif, lui, il va te prendre pour tes forces puis pour combler ses faiblesses. Si tu pognes un leader qui est négatif, qui va te voir aller puis il va se dire « ça n'a pas de bon sens de prendre quelqu'un dans mon équipe qui est plus populaire que moi », puis il va peut-être te mettre « backbencher ». Faut vraiment que tous les éléments soient mis en place pour favoriser un Olivier Primeau dans un parti qui pourrait être utilisé à bon escient, là.
Exact. Le timing, hein? Timing is everything, comme qu'on dit, surtout en politique. Puis là, ça aurait été un super timing pour faire une entrée fracassante si jamais j'aurais fait ça. Mais, tu sais, je veux dire, pourquoi? Pour repartir en campagne pendant 6 mois, puis ça aurait été une campagne, là. En fait, 2026, avec quelqu'un de l'externe du parti, aurait été l'année de toutes les années de la campagne politique au mois d'octobre. Pour des amateurs de politique comme nous, ça aurait été incroyable. Ça va être quand même là, une année fort intéressante. Mais faut vraiment que tu pognes quelqu'un comme chef là, qui veut t'utiliser comme du monde. Là. Je suis prêt à graver les échelons. Par contre, je sais très bien, puis tout le monde le sait, que si je me fais demander par un parti politique d'y aller, je ne serai pas justement un backbencher. Là. Je t'emprunte ton expression.
Ben, je te le souhaite, parce qu'on en a vu des gens extrêmement populaires qui sont arrivés parce qu'il y a un parti qui a été il y a deux partis qui ont été mergés, puis c'est le cas de Gérard Deltel, qui était chef de l'ADQ, qui, une fois qu'il est arrivé avec l'autre parti, a été un backbencher. Il y en a un qui s'en est peut-être sorti mieux par la suite. Éric Kerr, qui était pour l'ADQ aussi, qui a été nommé ministre, mais là, on connaît la fin pour ce qui est d'Éric Kerr. Là. C'est pas vraiment un exemple. Fait qu'il faut vraiment que les astres soient alignés pour toi. Je te le souhaite, si c'est un de tes rêves, puis t'es là pour les bonnes raisons.
En fait, l'autre truc aussi, tu me parles de personnes super connues dans le monde politique. Moi, le truc, c'est que j'arrive avec un média avec moi. Là, j'arrive avec tellement de monde qui me suivent pour plein de raisons. Pour mes reviews de Poutine, pour mes opinions politiques, pour le beach là, pour mes canettes. Fait que, tu sais, je rassemble du monde de tous les partis. Fait que, tu sais, je sais que ça a aussi un énorme impact pour un parti politique. C'est ça. Je veux dire comme toi, ça prend quelqu'un aussi avec qui je partage la même vision. Parce que, tu sais, je suis un gars d'équipe. Là, oui, je suis un entrepreneur, je suis à la tête de mes entreprises. Mais, tu sais, en politique, ça ne me dérangerait pas en tout de pas être le pour commencer, de ne pas être en haut de l'échelle, là.
OK. Ça combien d'années que tu t'intéresses à la politique, Olivier Primeau?
20 ans déjà. Même plus que ça. Moi, j'écoutais là, à l'époque avec ma grand-mère Mercedes, on la salue. C'est elle qui m'a fait aimer la politique. Là. J'avais 15-16 ans. Là. Elle écoutait CNN en boucle. Là. Puis avec les Dumouriez King Size, là, puis j'écoutais ça avec elle, là, puis je capotais sa politique américaine, puis après ça, on écoutait ça, puis là, elle m'expliquait c'était quoi la gauche, la droite, les partis, les ici, comment ça fonctionnait. Fait que, ça fait tellement longtemps que je m'intéresse à ça, mais j'ai toujours été un amour. J'aime parler des problèmes de société, j'aime parler du positif de la société aussi. Par contre, quand tu es politicien, t'as pas le temps de parler de ce qui va bien. Tu sais, je veux dire, faut que tu règles qu'est-ce qui va mal. C'est ça qui est. Fait que c'est ce qui me fait aimer aussi la politique, c'est que c'est tellement clivant que c'est un challenge là tous les jours.
Okay. Je trouve ça intéressant parce que tu dis quand tu es un politicien, tu n'as pas le temps de parler des choses qui vont bien, faut que tu parles des choses qui vont mal, faut que tu essaies de te concentrer sur les choses qui vont mal. Mais pour donner du gaz aux plus jeunes, tu sais, qui se disent
Ouais.
Hey, je veux rester au Québec, moi, est-ce que l'avenir du Québec dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, tu sais, de la prévisibilité, pour donner justement le topo réel aux jeunes, faudrait pas justement mettre ça sur un aspect positif pour nos politiciens, tu sais, dire à quel point qu'au Québec, c'est un endroit où c'est très sécuritaire, tu sais, où il fait bon vivre. C'est bien rare que tu vas voir l'armée débarquer dans les rues. Euh,
Ah oui.
c'est, c'est bien rare que tu vas voir des fusillades ou des gens kidnappés ou des politiciens qui sont kidnappés. Tu sais, je te donne un exemple comme ça, on est à l'extrême, mais je pense qu'on aurait avantage pour donner justement un avenir, le topo de la avenir meilleur à nos jeunes, de mettre l'accent sur le positif, surtout en politique, pour que des jeunes, des hommes et des femmes puissent s'intéresser à la politique. Ça n'a pas de bon sens de toujours se concentrer sur le négatif, là.
Je t'entends 100%, puis tu as tellement raison que le message doit être positif. Mais quand tu es un politicien, une politicienne, ton day-to-day, c'est pas t'occuper de ce qui est positif, ça va déjà bien. Oui, le message, je pense qu'on dit la même chose, là. Il faut le dire, il fait bien vivre au Québec, ça peut toujours être mieux. Puis je pense que ça va être de mieux en mieux, parce que là, moi, dans ma tête de personne de 40 ans qui habite ici, j'ai jamais vu un Québec là aussi, comment je pourrais dire ça, challengé, aussi affaibli pour plein plein de raisons. Fait que je pense que l'avenir peut juste être plus rose et plus positive. Par contre, dans le day-to-day, dans le travail des gens qui veulent justement offrir un Québec meilleur, t'as pas le temps de t'occuper de ce qui va bien. Fait que c'est plus ça que je voulais dire, là. Mais dans le message, c'est sûr. T'sais, j'adore aussi partager des nouvelles positives, de belles réussites, des beaux investissements, ce qui va bien. On critique souvent exemple, on critique souvent le système de santé. Le problème du système de santé, c'est de rentrer dedans. Une fois que tu es rentré dedans, on a un système de santé incroyable au Québec, on est chanceux, là. Par contre, il faut qu'on rentre dedans. Fait que tu sais, les gens qui s'occupent de la santé, ils ne s'occupent pas de savoir si le plancher est propre en ce moment, là. Ils s'occupent de qu'on ait des médecins, puis des lits, puis de l'équipement adéquat, puis que nos hôpitaux ne tombent pas en ruine, là. Fait que tu sais, ils n'ont pas le temps de parler, mais le message, 100%, il faut qu'il soit positif. On est tous d'accord. Par contre, tu es dans les médias, tu commentes ça à tous les jours. Tu sais, c'est compliqué depuis 4-5 ans, très compliqué même. Puis j'espère vraiment là, que dans la prochaine année, puis tu sais, justement, là, j'avais Mme Fréchette puis M. Drainville en entrevue, les deux le disent, puis je pense que tout le monde le sait à la CAQ, il faut revenir à la base en tant que gouvernement, faut faire avancer le Québec, faut arrêter de risquer notre argent, faut faire développer, faut créer de la richesse, un grand projet de société. On est là, on revient, là. Tu sais, quand on essaie de faire plaisir à tout le monde, on fait plaisir à personne, puis je pense que c'est ça qui est arrivé dans les dernières années. Puis ça donne la situation où on est en ce moment, là.
T'as-tu, parce que tu disais que tu as commencé à t'intéresser à la politique avec ta grand-mère Mercedes, qui, elle, était très politisée, puis elle te donnait les bases. T'as-tu des exemples de politiciens ou de politiciennes dans le monde ou au Canada, aux États-Unis, que tu te dis, hey, moi, c'est le genre de politicien que j'aimerais être?
Et en fait, moi, là, j'ai aucun exemple de politicien ou politicienne que j'aimerais être parce que maintenant, c'est tellement rendu clivant. Puis tu sais, avant, là, tu votais pour un parti. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux que les chefs de parti ou les personnes les plus importantes des partis, c'était les médias qui décidaient s'ils en parlaient ou pas. Tu n'avais pas le choix, tu passais par là, il fallait que tu aies des contacts, puis tout ça, puis là, bon, OK. Là, maintenant, c'est plus ça du tout. Tu votes pour une personne qui représente ton idéal le plus dans un parti. On le voit avec PSPP en ce moment, les gens votent pour le PQ, mais la majorité veulent pas de référendum. Fait que les gens votent parce qu'il pense que pour l'instant, M. Plamondon, c'est la personne qui va être capable de mener le mieux le Québec à bien. C'est le meilleur exemple. On retourne là pendant l'ère Marois. J'aimerais ça voir les sondages, qui était pour les référendums, puis tout ça dans le temps. T'sais, c'était du tout pareil. Là.
C'était pas plus élevé, ben, là.
Non, non, mais c'est ça. Ben, fait que là, on vote pour la personne, on vote pour le parti. Fait que j'ai pas vraiment d'exemple là, de politiciens puis politiciennes.
Est-ce que, parce que, tu sais, être populaire dans ses décisions, c'est une chose, mais est-ce que tu prends la bonne décision? T'sais, moi, j'ai des exemples que je peux te donner. Un des exemples les plus incroyables, c'est la Dame de Fer, Margaret Thatcher, qui prenait des décisions, puis c'était à l'encontre de ce que ses conseillers lui disaient de faire, en disant, Madame Thatcher, si vous prenez cette décision-là pour le bien de l'Angleterre, c'est correct. Le problème, c'est qu'on n'a aucune chance de repasser aux prochaines élections. Et Thatcher disait, je m'en fous, je fais ce qui est de mieux pour mon peuple. Dans le moment présent. Je ne pense pas à l'année prochaine ou je ne pense pas dans 2 ans. C'est là qu'on doit le faire. Puis elle avait redressé les finances de l'Angleterre. C'était incroyable. Cette politicienne-là, pour moi, m'a marqué. Mais est-ce que ça existe encore, ce type de politicien-là qui disent, moi, je vais faire un mandat de 4 ans, je vais faire le meilleur des mandats, puis advienne que pourra, les gens me jugeront après 4 ans, mais je vais faire ce qu'il y a de mieux pour le Québec ou je ferai ce qu'il y a de mieux pour le Canada.
C'est sûr que quand tu es englouti par le parti, tu sais, tu as bien beau avoir les meilleures idées au monde, puis la Dame de Fer, c'est le meilleur exemple que tu donnes. Tu sais, en ce moment, on le voit dans toutes les sphères de la politique, partout. Les gens essaient d'avoir le vote populaire. Fait que le fameux vote populaire, faire ce que les gens veulent, c'est pas toujours, comme tu dis, c'est pas toujours vraiment pas toujours la bonne décision. Par contre, tu es quand même élu sur des trucs que tu as promis. Fait que là, tu sais, les fameuses promesses des politiciens, des politiciennes, je me rappelle à l'époque, puis je l'ai dit souvent, là, j'ai voté 2 fois pour le gouvernement Trudeau à l'époque, puis j'avais vu un truc là, quand il a démissionné, le nombre de promesses qu'il avait faites, puis le nombre de promesses là-dedans qu'il avait tenues, c'était 12%, même pas, c'était comme ridicule. Là. Fait que tu sais, il y a l'autre truc aussi, là. Est-ce que les promesses politiques sont devenues trop importantes dans la réélection, dans l'élection de quelqu'un. Ça, c'est un truc qui est un phénomène générationnel de promettre des choses puis de ne pas les livrer puis de dire, ouais, ben là, le contexte n'était pas pour ça, puis ci, puis ça. Fait que ça, c'est l'autre truc. Tu me parlais de la Dame de Fer, qui est le surnom incroyable pour une politicienne. Elle, tu as raison, elle a pris des décisions que personne ne voulait. Parce que tu le dis, elle allait perdre les prochaines élections. Par contre, c'est ça. Là. Exactement. Mais là, je pense qu'au Québec et au Canada, on est rendu là. On ne devrait plus avoir. On est rendu trop bas dans notre. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, c'est pas normal qu'au Québec, là, je lisais un article, je pense que c'est dans la presse avant hier. C'est pas normal que des gens de 75 ans doivent recommencer à travailler. C'est jamais arrivé au Québec. Là.
Une dame de 82 ans qui n'est plus capable d'arriver et qu'elle doit retourner sur le marché du travail.
Voilà. Fait que, ça n'a pas de bon sens. Puis elle n'est pas la seule. Là. Nous, dans nos IGA, on a beaucoup de personnes qui ont 70 ans, qui viennent porter leur CV et qui veulent travailler un 8 heures, un 10 heures juste pour arrondir leur fin de mois parce qu'ils ne sont plus capables d'arriver. T'sais, c'est pas normal. Au Québec, c'est pas normal que ça l'arrive. Surtout avec le nombre d'argent qui nous est imposé, taxé, puis tout ça. Ça devrait jamais arriver. Je suis le premier à dire que je suis un conservateur progressiste. Moi, je suis économiquement de droite, go, go, go. Mais j'ai aussi décidé que j'étais à l'aise avec ça de payer 50% de l'argent que je fais, parce que pour aider les gens qui en ont le plus besoin, pour qu'on ait des routes incroyables, pour qu'on ait des infrastructures incroyables, des services, mais c'est pas le cas en ce moment. Fait que, tu sais, il faut redresser, il va falloir promettre des trucs et les tenir qui vont être je vais dire comme toi, là, ça va être très, très, très difficile de se faire élire après un mandat de 4 ans en promettant des affaires comme ça, mais t'as pas le choix. Tu sais, en ce moment, le gouvernement Legault, il a ben là, après avoir doublé, bien sûr, voyons, toute la taille de l'État commence à couper. C'est pas un choix populaire, mais on n'a pas le choix. On n'a plus d'argent pour payer ça.
Mais tu parlais de quelqu'un qui avait fait des fausses promesses. En 2017, c'était l'objectif de François Legault de réduire la taille de l'État, de faire un peu ce qu'on appelle du centre-droit économique. Et il avait fait des promesses de centre-droit, mais il a gouverné à gauche et au centre, le centre-gauche, pendant toutes les années de son mandat. Et là, ben, comme la fenêtre d'Overton s'est déplacée, ben là, tout le monde est rendu de centre-droit parce que, à cette heure, quand tu dis que je suis rendu de centre-droit économique, c'est rendu à la mode. T'sais. Bernard Drevet est rendu, curieusement, de centre droit économique, alors qu'il a fait sa carrière à Radio-Canada. Il était de gauche, Bernard Drinville. Il a été pour le Parti québécois. Il était de gauche. Il est embauché dans les médias parce qu'il était de gauche contre Éric Duhaime, qui était de centre droit. Et là, quand il a été réembauché à la CAQ, Bernard Drinville, il a été remis au pouvoir comme député et ministre. Ben, il était de gauche. Et là, ben, il y a une job qui se libère. La fenêtre d'Overton s'est déplacée. Finalement, moi, Olivier, finalement, moi, Marceau, je suis de centre-droit. Ah ouais, OK, ben on est les premiers surpris, là. C'est particulier.
En fait, quand on veut redresser une économie, on n'a pas le choix d'être de droite. Il faut créer de l'argent, il faut créer de la richesse. Puis tu sais, l'autre truc aussi, j'en parlais à M. Drinville et à Mme Fréchette, là, il appelle ça la fameuse défense, là, mais notre armée, qui était tellement tabou, t'es dans les médias depuis longtemps, qui aurait pensé un jour que quelqu'un qui gouverne le Québec vienne s'asseoir devant nous et nous dise « Nous, on a tellement hâte d'avoir le budget de l'armée pour pouvoir le dépenser. » Jamais, jamais. Fait que là, la situation géopolitique mondiale fait que l'armée revient à mode. La droite économique revient à la mode. On n'a plus le choix parce que là, on est rendu. Puis on est tellement endetté que si on continue à donner de l'argent, bon, on s'en sortira jamais. Fait que, puis tu sais, je le demandais à Mme Fréchette et à M. Drinville, est-ce que c'est ça qui va nous sortir, excusez-moi de l'expression, mais de la marde? Est-ce que c'est la défense, l'armée, les dizaines de milliards que le Québec va avoir le droit d'avoir qui va nous sortir de la marde? C'est ça qui va arriver pour le vrai? Pendant 10 ans, pendant 20 ans. Ben toi, je ne sais pas t'as quel âge, mais moi, j'ai 40 ans. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Jamais. C'est cool d'investir dans l'armée puis dans la défense, puis faut qu'on se protège puis qu'on construise des brise-glaces puis qu'on investisse dans la vie puis tout ça. J'ai jamais entendu ça. Et là, c'est tout ça notre projet de société.
Ouais. Quand l'économie va mal, il y a une bonne vieille technique. Écoute, ça doit dater des années 60-70. C'est de l'économie keynésienne. Donc, on prend l'argent du peuple puis on investit dans des gros chantiers comme le chantier que tu nous parles. Puis on fait travailler notre monde puis l'économie recommence à virer, mais ce n'est pas la meilleure des stratégies pour se sortir du trouble. Non. Il y a quelque chose que tu as dit, par contre, tu payes 54 % d'impôts avec toutes tes entreprises. Je vais te présenter un comptable, là, Olivier. Ça...
Non, mais tu comprends ce que je veux dire.
Parce que moi,
mon salaire personnel, je paye plus que 50 % d'impôts, là, mes entreprises, non. Là.
Ouais, c'est
je suis
ça.
Dans la braquette de toutes les entreprises, là, en 28, puis je ne sais pas combien. Mais tout ça pour te dire que, tu sais, puis moi, tous mes amis qui réussissent, là, ça leur dérange pas de donner de l'argent. Mais ils veulent juste avoir ce qu'on nous promet. Des routes qui ont de l'allure, des hôpitaux qui ont de l'allure, c'est juste ça qu'on veut. Là.
C'est le retour sur investissement. Puis c'est pas normal avec tout l'argent qu'on donne, que nos infrastructures sont désuètes, qu'en santé, les hôpitaux, surtout dans le secteur de Montréal, il y a des hôpitaux qui sont maganés.
Je sais pas
si tu avais vu les reportages. Je me rappelle pas du nom de l'hôpital. Là. Ça va peut-être me revenir dans les prochaines secondes. Mais on se posait plus, à l'intérieur de l'hôpital, là, on se posait plus la question comment colmater la brèche. On se posait la question comment dévier le jet d'eau qui tombait du plafond dans l'hôpital pour être sûr et certain que ça ne nuise pas aux opérations régulières. Puis on perdait régulièrement l'électricité dans cet hôpital-là, ce qui faisait en sorte que les chirurgiens, avec la lumière de leur cellulaire, terminaient leur chirurgie. Je veux dire, c'est des reportages qui passaient à télé, ça, Oli, en 2025, là.
Ah oui, c'est une vraie honte. Je me rappelle, là, M. Plamondon est allé devant l'hôpital, là, j'ai un blanc de mémoire. C'est pas Rose...
Je pense que c'est Rosemont.
Oui, exact.
Rosemont, un petit peu.
Ouais, non, c'est... Puis, tu sais, on va se le dire. Là. C'est une vraie honte qu'avec l'argent que les contribuables on paye, que ça l'arrive. Puis, tu sais, l'autre truc aussi, là, on parle de la santé, le mini parenthèse. La santé coûte presque 80 milliards par année au Québec. Fait que pour les gens qui nous écoutent, moi, j'adore transférer ça en millions. Fait que 80 milliards, c'est 80 000 millions. OK, juste pour que situer les gens comment c'est de l'argent. Parce qu'à cette heure, maintenant, on dit 1 milliard, 2 milliards,
ça
comme
ça.
Ben non, mais ça ne peut plus rien dire. On est rendu qu'on veut construire le troisième lien pour 11 milliards. Ça veut dire qu'il va coûter presque le double. Fait que là, 80 000 millions de dollars. notre argent, elle va où? 80 000 millions. C'est tellement d'argent. Tu sais, à l'époque, là, il y a 10 ans, le rêve de tout le monde, c'était de devenir millionnaire. Tu sais, on entendait ça. Là, moi, je veux devenir millionnaire. Millionnaire, là, à cette heure, là, tu t'ajoutes même pas un triplex à Montréal. Je veux dire, c'est rendu fou. Fait que là, on dépense 80 000 millions par année dans un système de santé complètement désuet. Une chance qu'on a des personnes compétentes, par exemple, qui sont là parce qu'on a les médecins, les infirmières, tout le système de santé, les gens qui travaillent dans la grande majorité sont ultra compétents et compétentes. Par contre, la gestion de notre argent là-dedans, Santé Québec, ça finit plus. Ça finit plus de finir. Après, on entend qu'on dépense 1,5 million, presque 2 millions pour une chambre. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est juste ça qu'on dénonce. Notre argent est mal géré. Point final. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'argumentation à faire. Elle est mal gérée. C'est impossible qu'avec tout l'argent qu'on donne, que tout aille... que tout soit désuet, parce que là, pour les prochaines années, là, tout le sujet des infrastructures, là, oublions là, la qualité des hôpitaux, puis oublions les infrastructures, les routes, les aqueducs qui vont coûter presque 30-40 milliards dans les prochaines années. Pour le Québec, les aqueducs sont scrap partout. Là. Je veux dire, tu fais une Google Map, là, tout est rouge partout. Là.
Mais il y a ça quelques années, Olivier, il y avait une statistique, une étude qui était parue à Montréal sur l'eau. Et Montréal traitait son eau et 100% de l'eau traitée, il y a 60% de cette eau-là qui se perdait dans les canaux, dans le sol de la ville de Montréal.
Oui, puis je confirme parce qu'avant Noël, je suis allé visiter avec la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, le système de traitement d'eau potable de la ville de Longueuil pour 450 000 personnes, là, ish à peu près. Si tu voyais ce que j'ai vu, c'est super impressionnant, là. Je veux dire, tu sais, d'un bord, l'eau rentre, puis deux heures après, l'eau est potable, puis tu pars, bon, c'est malade. Ça, c'est correct, on a compris. Ça fait je sais pas combien d'années que ça se fait. Tu sais, je veux dire, on n'est pas la seule place à la planète qui a ça, fait que c'est super cool. Mais la qualité des infrastructures, tout est à refaire. Elle me disait ça, il faut qu'ils mettent 1 milliard, la ville de Longueuil, 1 milliard, 1 000 millions de dollars d'ici 2030 pour être, je sais pas, là, pour que le gouvernement fédéral soit content, là. 1 milliard de dollars. Comment ils vont faire pour payer ça, Longueuil? 450 000 personnes-ish.
Ça va prendre des subventions fédérales, des subventions provinciales.
Ben oui, mais à la fin de la journée, c'est nous autres qui va payer ça, là, on le sait. Mais comment? Tu sais, elle me parlait de 34 000 piastres par personne qui habite à Longueuil. Je veux dire, juste pour l'usine de traitement d'eau, pour se mettre à jour, excuse-moi, là, c'est ça que je voulais dire, pour se mettre à jour pour des conformités du gouvernement fédéral, que quand l'eau retombe dans je sais plus, ça finit plus. Fait que là, c'est ça. Puis là, après, Montréal, ils ont bien plus d'argent à mettre que ça. Plus la population grossit. Fait que, tu sais, en ce moment, il y a la crise du logement, là, on parle des permis, des si, mais une des plus gros freins à la crise du logement, à la construction des logements, c'est l'eau potable. Les villes n'ont plus d'aqueduc, ne sont plus capables de fournir. Moi, je connais des villes ici à l'entour de Laval, ils n'acceptent plus de projet, ils ne sont plus capables. Mmh. Fait que là, il faudrait que les entrepreneurs payent des aqueducs. Le système de traitement d'eau, c'est rendu fou, là.
Ouais. Secteur de Lévis, Olivier Primo, ce matin, il y avait une nouvelle, je pense que c'est dans Le Soleil, qui mentionnait que depuis 2021, jusqu'à ce jour, il y avait 15 % de l'eau qui n'était pas traitée, qui retournait dans la rivière Chaudière et par la suite allait dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, depuis plusieurs années, ce qu'on envoie dans le bol de toilette, numéro 1, numéro 2, ben, ça allait, il y a un 15 % de ça qui allait directement dans le fleuve. Je veux dire, on est rendu en 2026.
On est rendu en 2026, puis on paye plus de taxes que jamais municipales.
Oui, il y a eu des erreurs de planification. Juste leur dire. Mais
tantôt, tu m'as dit qu'on voulait parler d'affaires positives. Là. Ouais. On a une belle qualité d'eau de robinet. Bon, ça étant dit.
C'est ce qu'ils disent. Tu as parlé avec Christine Fréchette, tu as parlé avec Bernard Drainville dans les dernières heures. Je trouve ça intéressant. Ouais. J'ai hâte d'entendre ces podcasts-là. J'entendais Christine Fréchette avec Dutrisac, je pense que c'était hier ou avant-hier. Mais elle mentionnait que dans certains dossiers, entre autres, ce qu'elle a entendu à la commission Galland, des fonctionnaires qui ont fait preuve de laxisme, ça a fait en sorte qu'il y avait des gens qui ont perdu. En fait, on a perdu énormément d'argent, puis il y a des gens qui en ont profité de tout cet argent-là. Elle veut voir des gens derrière les barreaux. Et de l'autre côté, on a un Drainville qui dit les fonctionnaires qui font pas leur job, on devrait les crisser dehors. Tu te situes à quel endroit, toi, là-dedans?
Ben là, je pense qu'il y a un juste milieu. Puis après ça, là, c'est drôle parce que ce matin, je publiais justement là, pour quel sujet j'ai publié un matin. En tout cas, peu importe. Une départ. Ah oui, c'est ça, le nouveau TGV, là, Montréal,
Ottawa.
whatever, de où à
Montréal,
Toronto.
Ottawa.
Exactement.
Québec,
Puis là, il y a
Ottawa,
le
excuse.
PDG, Québec-Ottawa, excuse-moi. Puis le PDG qui ne sait pas combien ça va coûter. Fait que là, dans les commentaires, je publie ça, je dis ça n'a pas de bon sens. T'sais. Fait que le premier commentaire, c'est ben, s'il n'y a pas de règlement, personne ne devrait perdre sa job. Fait que là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que, bon, comme à la, mettons, à la SAQ, quand ils ont donné le contrat, c'était pas écrit noir sur blanc, écoute, si tu te fermes les yeux, si tu prends des mauvaises décisions, si tu nous fais perdre de l'argent, s'il n'y a rien qui fonctionne, tu vas quand même garder ta job. Non, c'est comme rendu tellement ridicule. Je le sais qu'il ne faut pas gérer une province comme une entreprise. On le sait tous, là, on a compris. Par contre, tout ce qui est monétaire comme ça, pour venir aider la société à avancer, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se numérise. Ça, là, la personne, là, faut qu'elle soit imputable. Faut qu'elle soit imputable. Puis des mensonges au ministre, puis d'ici, là, on ne dira pas qui a raison, qui a tort. Là. Moi, dans ce dossier-là, tout le monde avait tort. Là. Mais il faut que tu sois imputable. Puis Bernard Drinville a 100% raison. Tu ne fais pas un job, tu es un haut fonctionnaire, on te calisse dehors. Ça finit là. Bon, là, en prison, s'il y a fraude, puis tout ça, c'est une autre affaire. Si c'est de l'incompétence, comme il y a eu à sa clique, aucun problème. Là, après, s'il y a eu fraude en mentant pour des budgets, ben là, comme tout le monde, comme un citoyen normal, tu fraudes, tu t'en vas en prison ou tu te fais arrêter, peu importe, correct. Fait que moi, je pense qu'il y a un juste milieu là-dedans. Mais tu sais, il faut que tu sois imputable. C'est notre argent. On travaille tellement fort pour avoir notre argent. Puis, tu sais, puis j'aime pas ça dire ça, mais on travaille, la majorité des gens travaillent 3 à 4 mois par année juste pour payer ce qu'ils doivent à l'État. C'est fou. Fait que, tu sais, quand on le voit de même. Fait que là, moi, personnellement, pas mes entreprises, mais 6 mois et demi par année, je travaille gratuitement pour l'État. C'est dit cru comme ça, c'est la vérité. Fait qu'il faut juste qu'on en aille pour notre argent, puis il faut que les joueurs soient imputables. Ils jouent avec notre argent parce que c'est vraiment le cas, là. Ça clique, ils ont vraiment joué avec notre argent. Puis ça, le TGV, je vois pas comment ça va pas coûter des. Tu penses que le PDG, un matin, quand il a répondu à la presse ou au Journal de Montréal, il a pas entendu un chiffre que ça allait coûter? Voyons, il nous prend tous des câbles.
Peut-être un peu, oui. OK, autre sujet que je veux jaser avec toi, Olivier Primeau. Tu parles souvent de l'eau,
Oui.
l'exploitation de nos ressources aussi, faire le plus attention possible à l'environnement. Ça, je suis toujours pour ça aussi. Un Olivier Primeau qui dirigerait un pays ou qui dirigerait une province ferait quoi avec l'exploitation de nos ressources? Est-ce qu'on ouvre le sol pour exploiter le gaz naturel? Est-ce qu'on recherche
Toutes
si on
les
a du pétrole?
ressources naturelles combustibles. Fait que tout ce qui sert à faire avancer, peu importe. Fait que là, tout ce qui est pour faire des batteries, tout ce qui est pour. Moi, je suis pour ça à 100%. Bon, premièrement, intelligemment. Là. On ne peut pas aller commencer à ouvrir partout. Il faut juste que ça soit bien fait. Puis ça, on aurait dû le faire depuis longtemps. Puis je le dis souvent, la fameuse expression, on choisit d'être pauvre. Au Québec, là, je sais que c'est paraphrasé, là.
En fait,
Mais tu sais, dans le
t'as
sens.
entièrement raison, là. T'sais, on choisit
Ben
de
oui.
faire les hypocrites. On est pro-environnement plutôt que d'exploiter nos propres ressources. On fait
Mais non,
venir
mais
du
non.
gaz d'ailleurs.
Mais non. Puis on va acheter des chars qui sont faits par du monde qui travaille dans des usines de charbon en Chine, puis qu'ils gagnent 1 pièce de l'heure. On est une des places les plus hypocrites sur la planète pour ce qui est de notre. Comment je pourrais dire ça? Vision environnementale de la planète. OK? Oublions de combien de pourcentage de GES. Si oublions tout ça, là. Je pense qu'on en fait beaucoup de notre côté. Est-ce qu'on devrait ouvrir la brèche puis remplir les cas? Tu sais, là, c'est comme dans tout, hein? L'élastique, là. La balance, là. Elle va d'un bord, elle va de l'autre. Mais à un moment donné, il faut qu'elle revienne au centre. Parce que c'est pas bon, là, être trop d'un bord puis trop de l'autre. Fait que là, c'est le temps que le Québec devienne riche. On peut devenir très, très riche avec nos ressources naturelles. Puis tu me parles d'eau. Fait que là, l'eau de source. Fait que l'eau de source, pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent peut-être un petit peu moins ça, l'eau de source, c'est comme Esca, là. Ça, c'est un eau que tu creuses, tu prends un verre d'eau, puis tu bois, là. Tu as besoin d'un petit filtre au charbon, là, comme une Brita, là, puis elle est pure. Tu n'as pas besoin de la passer dans le système, là, de l'osmose inversée, là, puis le chlore, puis tout ça. Fait que nous, le Québec, on est. Sur la planète, par habitant, la place qui a le plus d'eau de source. On est multi-centaines de fois milliardaire, dis-le comme tu veux, de litres d'eau par habitant renouvelable à vie. Après ça, est-ce qu'on veut commencer à ouvrir le sol puis mettre ça en bouteille d'eau? Non. Il n'y a pas une scène à faire là. C'est pas bon pour l'environnement. Puis ça sert absolument à rien à faire ça. Des compagnies de bouteilles d'eau, il y en a partout. Par contre, est-ce qu'on est capable de valoriser notre eau sans la sortir du sol? Est-ce qu'on est capable d'aller vendre un produit financier un petit peu partout sur la planète? Est-ce que les. Tu sais, là, on parle de taxes carbone souvent, là. Est-ce qu'on est capable, nous, de créer un truc de même avec l'eau? Que nous, on ne pompe pas, mais tu payes pour pas qu'on la pompe. Tu sais, je veux dire, on est rendu dans un système
Okay.
économique.
Mais les redevances pour ce qui est du pompage de l'eau par des entreprises extérieures qui
Mais
arrivent
non, mais
ici, les redevances sont ridicules, Olivier. On
c'est.
pourrait peut-être se pencher là-dessus.
Mais oui, 100%. Par contre, tous les gens qui vont pomper ici seront plus compétitifs dans le prix de la revente de bouteilles d'eau. Et encore une fois, tu viens de dire, c'est ridicule. Fait que même sur la double, ça va être encore ridicule.
Ah
Là,
oui.
je pense qu'on collecte à peu près une vingtaine de millions par année sur un budget, là, on va le paraphraser aussi, là, sur un budget que juste la santé coûte 80 milliards. Fait que, tu sais, c'est tellement rien que à la place d'embêter les compagnies qui décident de faire venir des emplois ici puis travailler, il y a d'autres façons de valoriser l'eau au Québec, surtout en 2026. Que maintenant, on ne parle plus juste de l'eau du Québec ou de l'eau du Canada ou de l'eau d'Amérique, on parle de l'eau mondiale. La mondialisation est tellement rendue puissante, puis on le voit là, dans les dernières années, puis on le voit depuis que Trump est rendu au pouvoir, parce que là, l'emphase est vraiment mise là-dessus, où on va chercher les ressources naturelles. La course aux minerais dans l'Arctique. Là, c'est rendu que les Russes construisent des brise-glaces pour. Ah ouais, on ouvre en haut, fait que la route maritime va passer par haut. Tu sais, il faut qu'on décide où on va être dans les 50 prochaines années, côté économique, côté ressources naturelles. C'est la guerre, c'est la chasse à l'énergie en ce moment. Tout le monde cherche ça et il en manque. Regarde, en ce moment, là, c'est drôle parce qu'on en parlait avec. J'en parlais avec M. Drainville, Hydro-Québec. V'là 5-6 ans, v'là 10 ans, même pas là. Tu voulais des mégawatts. T'as envoyé un email, il te répondait dans la même journée, prends-les. Go. Maintenant, tu veux des mégawatts, c'est un décret ministériel. C'est rendu fou, on n'a plus d'énergie. Puis là, on nous dit, il faut mettre 2, 3, 400 milliards pour être hey, 2, 3, 400 milliards d'investissement sans garantie sur le retour. Je comprends qu'Hydro-Québec, c'est une chance qu'on l'a, c'est notre projet de société, c'est notre vache à lait. Je me demande souvent où est-ce qu'on serait sans Hydro-Québec, le Québec, on ferait dur en maudit. Par contre, est-ce que c'est vraiment ça l'avenir? Le nucléaire qui revient en malade, tout s'en vient. La Chine puis l'Inde qui construisent des centrales au charbon à toutes les semaines. Fait que là, nous autres, on est là, on veut mettre 300-400 milliards dans une énergie verte, 100%, plus verte en tout cas. Mais tu sais, je comprends qu'on veut la vendre, puis je comprends qu'on va attirer du monde, mais est-ce qu'on va être capable de rentabiliser ça dans un cycle générationnel? Jamais de la
Jamais,
vie.
jamais. Puis
Jamais.
on parle le même langage. Tu parles des réacteurs nucléaires, là. Tu sais, au Canada, c'est très peu. Au Québec, au Canada, les gens connaissent un peu le nucléaire, mais au
Ouais.
Québec, on dirait qu'on est marqué par des films qu'on a vus à la télé, puis des histoires qui
Ben
datent
oui.
d'une autre époque. Mais il y a 19 réacteurs nucléaires au Canada. La majorité sont en Ontario. L'autre, de mémoire, il est en Nouvelle-Écosse. Il y en a 19, on n'entend jamais parler. Puis je jasais avec un politicien, puis je disais, ben, le nucléaire, à ce jour, c'est rendu la façon la plus environnementale de produire de l'électricité. C'est plus propre que Hydro-Québec. Et le politicien m'a dit, puis je me souviens pas si c'était en ondes ou hors d'ondes, mais c'était dans les mêmes moments que je lui jasais, parce que j'ai pas d'amis politiciens, j'en veux pas non plus. Il me disait, Yann, tu pourras pas faire passer du nucléaire ici parce que les gens n'en veulent pas. Mais je vois, mais c'est la meilleure façon de produire de l'électricité. Ils prennent ce nouveau nucléaire-là partout. Pourquoi ici, on est plus idiots? Il m'a dit non, les gens n'en veulent tout simplement pas parce qu'ils considèrent que c'est dangereux. Mais il faudrait l'expliquer aux Québécois que ça ne l'est pas dangereux quand c'est
Le
utilisé.
nucléaire, c'est zéro dangereux.
Ben,
C'est zéro dangereux.
il y a toujours une possibilité, mais j'ai l'impression que les gens voient Homer Simpson dans sa centrale qui pèse sur un piton pour pas que ça explose, tu sais.
Non, mais t'as 100% raison. Mais le nucléaire, c'est une des énergies, bon, premièrement, la plus verte et deuxièmement, la plus sûre.
Fiable, ouais.
Ben oui. Puis, tu sais, puis beaucoup moins cher là, que 300-400 milliards là, Mais c'est ça. Fait que c'est quoi l'avenir économique du Québec pour les 30-40 prochaines années? Est-ce que c'est Hydro-Québec? Est-ce que ça va être encore ça, notre seul joyau? Est-ce que c'est ça, notre seul projet de société, quand on a tellement, tellement de ressources? On est tellement riche. Puis la majorité des gens le reconnaissent pas, ne veulent pas le reconnaître, dire ben non, ça n'a pas de bon sens. Fait que tu sais, puis on est tellement hypocrite encore une fois, tu sais. On sort le gaz, on l'envoie se faire transformer ailleurs, on le rachète. C'est tellement hypocrite. Fait que c'est ça. Mais tu sais, ça nous prend un grand projet de société, puis rapidement, là.
Ouais.
Pas dans 10 ans, là.
Juste te dire, le TGV que tu me parlais tantôt, on va faire une pause dans les prochaines secondes, mais le TGV que tu me parlais tantôt, quand ça a été calculé chez Hydro-Québec, le train va prendre 3% de toute l'électricité des Québécois. Fait qu'on va,
en ce moment,
on va se partager le 97%.
Ben oui, mais en ce moment, ce que tu me dis, c'est qu'on a zéro les moyens énergétiques d'avoir un TGV. Voilà.
Voilà. Puis, dernière question, t'es-tu souverainiste? T'es-tu nationaliste? T'es-tu fédéraliste? Olivier Primo est où là-dedans?
Je suis... c'est même pas une question là, qui me perturbe parce qu'il y a, est-ce qu'il y a une bonne réponse à ça? Moi, c'est ça que je me demande tout le temps. Cette fameuse question référendaire-là, elle est tellement clivante, puis elle veut tellement dire tout, mais rien en même temps. Tu me dis, demain matin, il y a un référendum, est-ce que tu votes oui? Je vote non. Tu m'aurais dit en 80, mais là, j'étais trop jeune, là, mais au dernier référendum, j'aurais voté oui. Dans la situation que le Québec se trouvait à l'époque, il n'y a jamais de bon moment. Mais c'était un meilleur moment qu'en ce moment. Est-ce que dans 10 ans, la situation va complètement avoir changé? Le Québec va être riche parce qu'on va avoir décidé d'exploiter nos ressources, puis on va être riche, puis on va être capable d'être indépendant financièrement et de ne pas dépendre à tout le monde. Peut-être, je ne le sais pas. Mais tu sais, en ce moment, avec tout ce qui se passe, avec Trump qui est là, tout ça. C'est... Puis là, l'autre chose aussi que j'ai hâte qu'on parle dans les médias, parce que là, on est encore quand même loin là, des élections. Moi, je veux entendre M. Plamondon, puis pas négativement ou positivement, je veux l'entendre nous dire ce que ça va faire si jamais il y a un oui qui gagne. Qu'est-ce qui va se passer dans les 5 années d'après? C'est quoi les négociations qui vont partir? Parce que beaucoup, beaucoup de gens à qui je crois sont quand même « Pourquoi tu n'es pas souverainiste? On sera un pays. » Les gens, il faut qu'ils comprennent qu'on ne sera pas un pays du jour au lendemain. Ça va prendre des années. Et ça, c'est si ça se fait. Mmh. Parce que ça se peut que ça l'avorte après 3-4 ans. Ils disent « Bon, c'est ben trop compliqué. » C'est pas parce qu'on a décidé qu'on allait être un pays qu'on va le devenir. Là. Fait que là, il faut négocier qu'il y a l'argent qu'on va avoir. Ça va être qui notre armée? Avec qui qu'on va faire affaire. Il va avoir des centres, il va avoir des fonds, excusez-moi. Tu sais, ça finit plus, là. Ça va coûter des dizaines de milliards tout avoir ça, tu sais, je veux dire, un nouveau gouvernement. Fait que là, moi, personnellement, en ce moment, non. Avant, oui. Plus tard, j'en ai aucune idée. Ça, c'est une vraie réponse de policier, hein?
Oui, ben c'est exactement... tu viens de m'enlever la phrase que je voulais te dire avant la pause. Je regardais un article de Michel Gérard dans le Journal de Québec qui est paru samedi, et il mentionne que les Québécois qui gagnent plus de 100 000 $ représentent 12,8% de la population, mais ces gens-là paient 72% de l'impôt de toute la population, pour toute la population.
Parle-moi de ceux qui gagnent en haut de 200 000, qui payent, je pense, je ne sais pas combien, c'est fou, là.
La poignée de contribuables qui déclarent plus de 200 000 en paie, quant à eux, une méchante beurrée. En 2023, c'est 162 000 contribuables qui gagnent plus de 200 000 et eux payent 10,9 milliards de dollars en impôts provinciaux. Ça représente à peine 2,2% des gens, des 7,2 millions de contribuables québécois. Fait que,
moi, je fais partie de ça, puis je suis fier de réussir et tout ça. Mais c'est ce qu'on disait tantôt. Mes amis qui font de l'argent comme ça sont super contents de payer de l'impôt. Ils n'ont aucun problème. Mais notre argent qui paye 72% de tous les services presque provinciaux, il faut que ça vale ce que les gens payent. Ça n'a pas de bon sens que notre argent soit dilapidé comme ça.
Puis la démographie, ça n'a pas de bon sens. La démographie puis le fait qu'il y a énormément de gens pauvres au Québec font en sorte qu'au Québec, c'est seulement 40 % des gens qui payent de l'impôt.
Ben c'est ça. Fait que, puis c'est, hey, tu sais quoi? C'est correct. On a décidé de vivre dans une place comme ça et que notre filet social allait être énorme. Fait que, tu sais, puis il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, il faut arrêter d'être jaloux du succès des autres. On vient de le voir, ça paye 72%. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou.
Olivier Primo est avec nous ce soir. C'est l'influenceur, c'est l'homme d'affaires, c'est le futur politicien. Il nous reste quelques secondes tout de suite après la pause. Restez là.
Marceau, le soir. Le soir. Boulevard, c'est des idées, des voix, des rendez-vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Boulevard 102.1 pour regarder le Pit Stop, l'Open Mic et le Caucus. Découvrez nos podcasts originaux, sans oublier nos grandes entrevues et nos moments forts. Du contenu qui informe, qui questionne, qui fait réagir.
Si on veut ramener des familles dans le Vieux-Québec, c'est quoi la stratégie si on n'a pas les éléments de base?
Tout ça sur la belle petite chaîne YouTube de Boulevard 102.1. C'est payant d'écouter Boulevard 102.1.
Restez à l'écoute de Boulevard 102.1 pour gagner votre paire de billets pour aller voir Megadeth le 6 mars prochain au Centre Vidéotron.
Boulevard 102.1. Votre pocheur d'étiquette.
C'est la grande vente d'hiver finale chez Sport Expert et Atmosphère. Jusqu'à 50% de rabais sur une foule d'essentiels de saison pour pratiquer vos activités préférées. Détail en magasin, Sport Expert d'ici.
L'heure est à la célébration avec les concessionnaires Honda. Du 3 au 8 mars, ils vous attendent à l'International de l'Auto de Québec pour célébrer le grand retour de la Prélude, maintenant en version hybride. Et chez votre concessionnaire Honda de la Capitale-Nationale, vous pourriez célébrer l'achat d'un CR-V, d'une Civic ou d'une Accord hybride à un prix hebdomadaire très très bas, même avec zéro comptant. Les meilleures offres à zéro comptant, la Prélude qui revient, avoir un véhicule neuf avec la technologie hybride de Honda, il y a de quoi célébrer. Sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent. Détails sur Honda.ca.
Plongez dans la jungle avec Papillons en fête chez Jardin Amel. Une terre tropicale immersive. Des milliers de papillons en liberté des quatre coins du monde. L'activité la plus abordable de la relâche. Papillons en fête chez Jardin Amel. Ouvert dès vendredi tous les jours de 8h à 17h30.
En avant, moussaillon! Du 28 février au 8 mars, pour la relâche, montez à bord du Musée de la Civilisation pour une traversée rocambolesque inspirée par l'exposition Titanic, récits et destins. Spectacle, école de matelots, jeux questionnaires, ateliers, bricolage, il y a de tout pour tous les moussaillons. Vous allez rire, vous émerveiller, apprendre. Des moments à vivre en famille, ensemble, au Musée de la Civilisation. Achetez vos billets sur mcq.org et économisez. Une présentation Hydro-Québec.
La remise météo est toujours pas finie chez Enviro Confort. En février, profitez de 10% de remise sur toutes nos thermopompes et en mars, c'est encore 5% d'économies qui vous attendent. On prolonge aussi la promo du salon Expo Habitat et on vous offre 6 mois de financement sans intérêt. Wow! C'est le moment pour magasiner votre thermopompe. Enviro Confort, le choix du consommateur numéro 1 en chauffage et climatisation.
Céramix, c'est le plus vaste choix de porcelaine importée en ville. Format rectifié 24 par 24 à partir $1,69 et stratifié à partir $1,29. Pour le mois de la réno chez Céramix, venez nous voir en magasin pour faire le plein d'idées. Mise de côté et entreposage gratuit. Céramix.ca.
C'est le temps de jouer dehors au manoir du Lac de l'Âge. Raquettes, fat bike, randonnée, une multitude d'activités pour toute la famille vous y attend pour la relâche. Complétez votre séjour avec un déjeuner, un lunch ou un apéro autour du feu. Le manoir du Lac de l'Âge. C'est autre chose. Lacdelage.com.
On entame le dernier sprint entre les médecins spécialistes et le gouvernement. On se rappelle qu'ils se disputent une chaude lutte depuis plusieurs mois déjà. On voit enfin le fil d'arrivée. Les médecins spécialistes, ils sont presque. Encore quelques mètres et... Oh! Coup de théâtre! La ligne d'arrivée s'éloigne alors qu'on est tout près. Déception. Alors que rien ne bouge sur la piste, les grands perdants sont une fois de plus les patients qui paient le prix de cette interminable course.
Les négociations ne devraient pas devenir une épreuve d'endurance. Un message de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.
Mécaniciens et électriciens, mettez à vos agendas la soirée porte ouverte à l'aluminerie de Bécancourt le 11 mars.
Hey, depuis le temps qu'on veut travailler à l'abbaye, c'est notre chance. On y va?
Mais-en!
Réservez votre place pour les portes ouvertes de l'abbaye au emploi-abbaye.com.
Une méga vague de fun vous attend aux Galeries de la Capitale pour la relâche. Du 28 février au 8 mars, plongez dans une atmosphère tropicale, mesurez-vous à notre surf mécanique et participez à une foule d'activités gratuites. Une présentation d'Ashton. Détails au galeriedelacapitale.com.
Lasagne surgelée, puissance moyenne, pendant 15 minutes.
On dirait que c'est l'heure d'Ojo. Prêt à jouer?
Vivez le plaisir sur playojo.net avec toutes vos machines à sous et jeux de casino préférés comme Jungle Beasts et Sugar Rush, en plus d'exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Hey, j'ai gagné! Woohoo!
Sentir le plaisir, Play-O-Jo.
Chérie, oublie les lasagnes! Faut fêter ça!
Disponible pour tous les joueurs de 18 ans et plus. Ceci n'est pas un set de jeux d'argent. Veuillez jouer de façon responsable. Pour un véhicule d'occasion certifié Subaru, inutile de chercher. Lévis Subaru est la référence à Lévis. Venez choisir le vôtre et profitez d'un taux d'intérêt à partir de 3,99%. Qualité, fiabilité et tranquillité d'esprit vous attendent chez Lévis Subaru. Visitez lévissubaru.com.
Chez IGA, avec la garantie prix vérifiée, profitez des plus bas prix sur les produits identifiés ou recevez la différence en points 5 plus. Jusqu'au 4 mars, le veau haché maigre format familial est à 4,88 $ le livre ou 10,76 $ le kilo. IGA, au beau les prix. Magasin participants. Détails à IGA.ca.
Boulevard 102.1. 100% parlé en semaine. Avec les meilleures émissions d'actualité à Québec. Leclerc Communication, le radiodiffuseur numéro 1 à Québec. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Olivier Primeau est avec nous ce soir, l'influenceur, l'homme d'affaires, le futur policier. On a fait un bon tour de coffre de char avec plusieurs sujets avant la pause, puis c'est pas terminé, il reste quelques minutes. Olivier Primeau, t'as beaucoup d'entreprises, on te voit régulièrement sur les réseaux sociaux, de plus en plus tu parles de sujets qui touchent l'actualité. C'est positif à mes yeux, à moi, mais t'as une gang qui sont pas capables de te sentir la face. Ils sont même pas capables de lire qu'est-ce que tu écoutes, de comprendre tes opinions. Il y a beaucoup de jalousie au Québec concernant les gens qui réussissent. Il y a beaucoup de jalousie à ton égard. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas être capable de te libérer de ça?
Ben là, tranquillement, pas vite. Là, je sais que tu me dis qu'il y a bien du monde qui m'aime pas, puis c'est bien correct. Encore une fois, c'est drôle, hein, parce que depuis que j'ai décidé d'essayer de faire plaisir à tout le monde, toutes mes entreprises sont reparties, pas qu'elles étaient en baisse, là, mais qui ont toutes reparti à la hausse. Fait que je pense que c'est plus ça. Tu sais, c'est normal. Moi, il y a plein de monde que je parle de sentir, mais tu sais, je vois pas sur Internet leur dire « Hey, moi, j'ai d'autres choses à faire, je parle pour moi. Tu m'aimes pas. » Par contre, j'adore débattre. Tu sais, je prends le temps dans les commentaires quand tu m'écris des vrais arguments, pas ta gueule, tes laits, là. J'adore aller argumenter. Parce que moi, je... Non, mais c'est vrai, parce que la vérité se trouve au milieu, en quelque part de tout, là, tu sais.
Ouais.
Fait que c'est pas vrai que j'ai raison dans tout ce que je dis pour tout le monde. Tu sais, moi, dans ma tête, puis dans les gens qui l'approuvent, sont comme « Ouais, il a raison. » Mais ça se peut que de l'autre côté, j'écoute des arguments, je suis comme « Ah, tu sais quoi, j'avais pas pensé. » Mais j'aimerais ça que les gens fassent ça aussi avec moi, de plus en plus. Mais tu sais, encore une fois, tu le disais tantôt, il y a du monde qui sont pas à me sentir. En politique, c'est comme ça. Fait que tu sais, on va quand même élire le prochain gouvernement avec 30-32% d'approbation. Ça, c'est si c'est pas un gouvernement minoritaire. Mm-hmm. Fait que tu sais, il y a quand même bien 70% du monde qui t'aime pas et tes premiers ministres.
Ouais. T'as-tu les médias de ton bord actuellement, selon toi?
Les médias n'ont jamais été de mon bord ou pas de mon bord. Les médias sont francs avec moi.
Ouais.
Les médias...
Je vais te dire une affaire. Tu sais, il y a des gens qui, parce que la lumière est sur eux, parce que les projecteurs sont sur eux, Oli, il y a des journalistes qui vont peut-être être un peu plus portés à parler de ces gens-là puis des histoires qui les touchent. Puis là,
c'est normal.
T'as plusieurs entreprises, Oli, mais eux, les journalistes, vont se concentrer sur les entreprises qui vont moins bien. Puis là, ils vont sortir des patentes à gauche et à droite sans penser que les autres entreprises vont bien. Là, c'est une moyenne au bâton. Je trouve des fois que ça peut être de l'acharnement sur les individus comme toi. Puis ça fait en sorte que tu te dis « Hey, vas-tu me faire chier en politique de même par des journalistes qui vont tout le temps chercher de la merde partout? »
En fait, là, depuis les dernières années, je sais très bien que mon visage et mon nom sont très clickbait. Fait que ça fait faire des clics, puis on comprend ça. Par contre, j'ai tout le temps été fair play avec les journalistes. Je réponds tout le temps. Quand ça va bien, quand ça va mal. Tu me parles de mes entreprises. Là, en ce moment, j'en ai une publique là, qui va vraiment moins bien que je voudrais. Je suis là-dessus. Je travaille tous les jours là-dessus pour le régler. Puis c'est vrai que quand il y a des affaires qui sortent sur mes entreprises, des affaires qui vont moins bien. Mais en même temps, non. Tu sais, j'ai aucune personne qui me vient en tête dans les médias avec qui je suis en guerre. Puis, tu sais, j'irai jamais écrire sur un journaliste en disant, ah, lui, je l'aime pas, whatever. Fais sa job, puis je fais la mienne. Par contre, je réponds au téléphone, puis les journalistes, le monde des médias respecte ça. Fait que c'est ça. Mais pendant les 72 heures là, que j'étais pressenti pour être premier ministre, toute la colline parlementaire m'ont appelé.
Ouais.
Puis, tu sais, c'était. Je réponds au téléphone. Fait que je pense que les gens respectent ça. Est-ce qu'ils m'aiment tous? Ben non, c'est bien, c'est correct. Mais est-ce que les gens respectent ça? Parce que justement, là, pendant ces 72 heures-là, j'écoutais tout ce qui se disait sur moi dans les médias. Puis tu sais, même les médias de gauche, même les analystes de gauche étaient comme, tu sais, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Olivier, c'est vrai que s'il vient en politique, ça serait bon, ça serait différent. Il y a des bonnes idées, il y en a des moins bonnes. Fait que tu sais, j'ai pas entendu personne dire, bon, gars, moi, le clown du Beach Club qui s'en vient. Fait que c'est ça.
Okay. Non, fait que les choses commencent à changer, mais moi, je pense que je suis pas mal target là.